sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons une œuvre du peintre allemand Otto Dix, Der Krieg ou la guerre, célèbre triptyque réalisé entre 1929 et 1932, conservé à Dresde, en Allemagne. Ce tableau reprend en fait la forme du retable, constitué d'un panneau central carré de 2 mètres de côté environ, de 2 panneaux latéraux de 2 mètres par 1 mètre, et d'une près d'elle, sous le panneau central, donc de 60 cm par 2,04 m. Otto Dix, il fut mitrailleur sur le front pendant la guerre de 14-18. Il a rapporté des combats, des images d'une violence incroyable, témoin direct de la guerre, il l'a dessiné sur ses carnets. C'est l'expérience, selon lui, du retour à l'animalité. Il a réalisé environ 600 dessins, gouaches et aquarelles, qui sont comme des notes prises sur le vif ou à l'occasion d'un souvenir qui ressurgit. En ont découlé également des toiles d'envergure, comme La Tranchée en 1918, ou des eaux fortes rassemblées dans un album intitulé La Guerre en 1924. Il réalisa aussi de nombreuses toiles qui représentaient le monde cauchemardesque des mutilés. Mais c'est avec son chef-d'œuvre, le triptyque de la guerre, réalisé entre 29 et 32, que le thème du désastre inspiré de Goya semble prendre tout son sens. Exposé une seule fois à Berlin en 1938, l'œuvre sera considérée comme appartenant à l'art dégénéré par les nazis, puis ensuite cachée pour éviter sa destruction.
C'est que la guerre est quelque chose de bestial. La faim, les poux, la boue, tous ces bruits déments. C'est que c'est tout autre chose. Tenez, avant mes premiers tableaux, j'ai eu l'impression que tout un aspect de la réalité n'avait pas été encore peint. L'aspect hideux. La guerre est une chose horrible. Et pourtant sublime. Il me fallait y être à tout prix. Il faut avoir vu l'homme dans cet état déchaîné pour le connaître un peu. Entretien avec Otto Dix, 1961.
Pour parler de ce terrifiant tableau, je reçois aujourd'hui l'artiste Vincent Corpet. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Il va pas mal.
Bien, vous êtes, peut-être parce que vous êtes né le jour du printemps de 1958.
Toujours.
Et 20 ans plus tard, jour pour jour, vous avez décidé de devenir artiste.
Oui.
Vous êtes entré à l'École des Beaux-Arts de Paris en 79.
Oui.
Vous voyez que je sais beaucoup de choses. Hein. Et vous en avez eu assez, 2 ans plus tard, vous êtes tiré.
Avec le diplôme.
Ah, en 2 ans ?
Ce qui fait que je suis le plus rapide.
Bravo, bravo. Vous avez peint votre premier tableau le 8 juin 1982 et c'est le seul qui porte un nom. Comment s'appelle-t-il ?
Pour le renouveau du bien-être. Ou Avenir radieux, ça dépend.
Si vous vous intéressiez plus à l'avenir qu'au présent, c'est pas exactement comme Otto Dix. Quoique, on va en débattre peut-être. Hein. Et les tableaux suivants que vous avez faits sont toujours identifiés par un code. Et comme ça, c'est plus simple, vous dites. Hein. Il y a le tableau de 1976, 3722, qui n'est peut-être pas encore peint, celui-là.
Oui, c'est des sortes de cailloux du petit poussé, en fait. Donc, ils n'ont pas de titre.
Et vous en êtes à combien ?
Ça regarde que mon marchand.
Et pour nous soutenir dans cette conversation, j'ai la chance de recevoir Maria Stavrinaki. Bonjour Maria.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Bon, vous êtes une célèbre historienne de l'art.
Ah oui, très.
Maître de conférences quand même, hein, à l'Université de Paris 1 Sorbonne. On s'était rencontrés lorsqu'on avait travaillé il y a très longtemps sur les traces du sacré au centre Pompidou. 2007, effet. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Vous aviez fait un très bel article sur la guerre et puis aussi sur Franz Marc, je me souviens, qui était très marquant. Et ces dernières années, vous avez travaillé sur les usages modernes de la préhistoire, c'est un très bon thème, et vous avez fait évidemment de nombreux autres articles. Donc, écoutons, je vous propose, ça va lancer notre conversation, un entretien avec Otto Dix de 1961. Je vous rappelle que Dix est mort en 69.
Le fait est que, étant jeune, on ne se rend absolument pas compte que l'on est malgré tout profondément marqué. car pendant des années, pendant 10 ans au moins, j'ai rêvé que je devais ramper à travers des maisons en ruine. Sérieusement. À travers des couloirs où je pouvais à peine passer. Les ruines étaient toujours présentes dans mes rêves. Le tableau Der Krieg, la guerre, a été réalisé 10 ans après la Première Guerre mondiale. J'avais durant ces années effectué de nombreuses études afin de réaliser ensuite ce grand tableau traitant de cet événement. En 1928, je me suis senti prêt à aborder ce grand sujet dont l'exécution me préoccupa durant plusieurs années. À cette époque d'ailleurs, durant la République de Weimar, de nombreux livres prônaient à nouveau librement l'héroïsme et une conception du héros qui avait été poussé à l'absurde dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les gens commençaient à oublier déjà ce que la guerre avait apporté de souffrances atroces. C'est dans cette situation-là qu'est né le triptyque. Entretien avec Autodix, 1961.
Donc un triptyque majeur, une œuvre monumentale qui surplombe le regardeur qui, même les bras étendus, est débordé physiquement et mentalement par les scènes qu'Autodix a peint pour son édification. 4 scènes sont réparties sur les 4 panneaux, toutes décrivant la guerre, depuis la montée au front et son retour à gauche, l'horreur du champ de bataille au centre, le sauvetage d'un blessé à droite et les cadavres sur la près d'elle qui soulignent l'ensemble. Les héros célébrés par Dix pour faire face à l'horreur, ce ne sont pas pourtant ces soldats sans visage qui montent ou reviennent du front, éventrés, devenus squelettes propulsés dans les charpentes des ruines ou transformés en matière gluante, intestin, cervelle, viande gangrénée, dont les viscosités sont soigneusement reproduites par l'artiste. Non, les héros que célèbre Dix et qu'il paraît opposé à l'horreur qui le ronge depuis qu'il a participé aux terreurs de la guerre de 14 et dont il pressent probablement le retour imminent, les héros, ce sont pour lui les artistes. Ce qui l'oppose à la barbarie par ce prodigieux triptyque, ce sont les grands peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance qui, par leur chef-d'œuvre, sauvent ce qu'est l'homme. On pourrait jouer à reconnaître les allusions à chaque artiste. Mais disons pour l'instant sommairement que la technique qu'il employait, la tempéra sur bois, évoque la peinture religieuse de la fin du Moyen-Âge. C'est le cas du triptyque du paradis de Jérôme Bosch, par exemple. On pourrait dire aussi que le soldat mort de la près d'elle évoque le Christ mort d'Holbein. Que les ciels rappellent ceux d'Altorfer, que les jambes de la figure centrale sont les mêmes que celles du Christ de Grunewald, que le squelette dans le ciel qui substitue la mort à Jean-Baptiste qui lui annonçait le sauveur peut être celui de n'importe quelle crucifixion de la Renaissance allemande. Seul à droite, dans cette galerie des prophètes, Autodix lui-même, devenu l'incarnation de tous ces artistes passés et à venir, apparaît comme celui qui sauve, substitue à ces religions qui n'ont sauvé personne. Il substitue au jardin des délices l'enfer sur terre et au jugement dernier, un jour dernier, mais sans jugement, sans Dieu pour juger, dans la profonde consternation de la disparition de tout signe divin. Le triptyque de la guerre, donc, achevé avant Guernica, sans doute à 4 ans d'écart, les 2 tableaux les plus absolus sur ce sujet dans l'histoire de l'humanité.
Quand ces messieurs viennent, n'est-ce pas, et me disent « Alors à quoi ça rime tout ça? C'est pour le peuple ou pour les esthètes? C'est pour qui au fond ? Ce n'était vraiment pas la peine de faire tout ça. » Je peux seulement leur répondre « Je fais ça ni pour les uns, ni pour les autres, ni pour personne. » Je m'en fiche à tel point que je leur dis « Ça, c'est ce que je fais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. À quoi bon, je n'en sais rien moi-même. Mais je le fais parce que je suis au moins sûr d'une chose. C'était comme ça, et pas autrement. » Autodix, décembre 1963.
Vincent Corpet, dans ce qu'il me semble être une célébration des artistes du passé pour s'opposer à l'horreur, est-ce que vous rejoindriez cette proposition d'Autodix que les vrais héros sont ces grands peintres de l'histoire ?
Dans la mesure où les artistes sont des héros, en reprenant la biographie de Marcel Duchamp, je dirais que les artistes sont des lâches absolus, puisqu'ils n'ont qu'une seule chose à défendre, c'est leur peau.
On peut dire la même chose de n'importe quel soldat.
Mais non, parce qu'il y va. Les artistes se tirent le plus possible, sauf effectivement le pauvre Autodix qui, lui, y va gaiement. Il y a même été deux fois, parce que... il était aussi en 40.
Et donc, on l'a renvoyé là-bas.
Il est reparti en 40, vieux, sans doute, puisque c'est à la fin de la guerre, mais enfin, il y a été deux fois. Et je fais un parallèle avec Marcel Duchamp, parce que Marcel Duchamp, lui, immédiatement, part de l'autre côté de l'Atlantique, le plus loin possible de la moindre balle qui pourrait siffler autrement que dans un saloon. Et le parallèle n'est pas inutile, parce que il y a cette fameuse phrase de Duchamp sur le rétinien. Et en fait, Dix y répond, parce qu'il fait une peinture non pas rétinienne, c'est-à-dire que Duchamp déteste la peinture rétinienne, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est une peinture à sujet, c'est une peinture qui veuille dire quelque chose. Et donc Dix répond à Duchamp. On pourrait croire donc que Dix est moderne par cette réponse à Duchamp, mais dans cette phrase-là, Duchamp est un réactionnaire. Donc Dix, par ce tableau, est un tableau parfaitement, fondamentalement inintéressant sur le siècle. Même si moi, jeune, comme tout un tas de jeunes peintres du début des années 80, on a été fasciné par cette peinture. On a été fasciné par cette peinture, sans doute plus parce que on y voyait des possibilités de faire que sur ce qui est fait véritablement, mis à part dans l'œuvre elle-même, la partie centrale et les deux tiers bas de la partie centrale.
Alors, quand même une question, vous l'avez soulevée tout de suite, et je voudrais que Maria Stavrinaki veuille bien nous aider dans cette conversation. Autodix part à la guerre, quasiment volontairement, ou peut-être pas volontairement, mais il était passionné d'y aller. Il y retourne quelques années plus tard. Et pourquoi cette fascination pour la guerre chez les artistes, particulièrement en Allemagne, mais pas seulement, mais particulièrement en Allemagne, au moment de 1912, 13, 14, etc.
Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, une énorme fascination. Et Dix, il est très, très caractéristique, en fait, de cette réaction. Et il dit lui-même, dans cet entretien qui est très, très souvent cité, que vous avez cité aussi, des années 60, c'est-à-dire que c'était vraiment la soif de vivre une grande expérience, cette grande expérience que les Allemands appellent Erfahrung, c'est-à-dire l'expérience commune qui ébranle la lettre et qu'évidemment la modernité rationaliste, plate, répétitive, refusait aux artistes. Donc il y avait chez Dix cette volonté de vivre une expérience qui est la même exactement, c'est la même volonté que retrouve chez Beckmann. En revanche, il n'y avait pas, c'est dit, ce messianisme, c'est-à-dire cette conviction qui, par exemple, était très, très importante pour quelqu'un comme Franz Marc et d'autres
Kandinsky
artistes.
Kandinsky également.
Kandinsky, c'est-à-dire...
Que ce déluge épouvantable donnerait, ferait apparaître un monde nouveau, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est-à-dire, mais ça, ça allait avec une conception de l'histoire qui était une conception essentialiste, une conception, voilà, comme je viens de le dire, messianique, c'est-à-dire qu'on pensait que tout cela, cette apocalypse allait, comme toute apocalypse, avoir son complément dialectique, c'est-à-dire la grande...
Révélation,
La rédemption,
oui, donc, absolument, Vincent Corté. Oui.
Exactement, donc il y a des christianismes dans les deux cas, mais sauf que le christianisme de Dix ne se projette pas à l'échelle de l'histoire. C'est vraiment une expérience personnelle et il pense qu'il va nourrir son art par cette expérience.
Vincent Corpé, c'est terrifiant en même temps, cette passion peut-être nietzschéenne d'ailleurs. Peut-être que Nietzsche n'est pas pour rien là-dedans. J'ai l'impression que Autodix annonce quelque part qu'il est parti à la guerre avec une Bible et Zarathoustra. C'était les deux éléments de son mariage. Je vous vois hocher la tête. Vous êtes, ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, bon, j'ai lu ça, comme vous, effectivement.
Je ne sais plus où, mais je l'ai lu. Voilà.
Je ne suis pas d'accord sur la vision nietzschéenne, en tout cas. Mm. Nietzsche n'est pas du côté de la mort.
Du tout.
C'est juste. Alors que là, on est dans le cataclysme, on est dans le... Bon, on pourrait être presque dans le viva la muerte, en se méfiant comme de la peste de ce genre de phase.
Enfin, il essaye. C'est quand même un tableau, le tableau dont nous parlons, donc ce grand triptyque de la guerre. C'est quand même un tableau pour décourager Nous sommes, quand il le fait, on n'est pas, on est en 33.
Il c'est a, bien après la guerre.
Il a vécu
hein.
quelque chose de terrifiant. Vincent Moi, Tempé, vous n'êtes pas d'accord. Comme
en fait, je ne suis pas d'accord avec l'utilité. Alors, en fait, c'est ça que ça pose comme problème, d'ailleurs, ce tableau-là, parce que c'est la peinture d'histoire, et je n'y crois pas à la peinture d'histoire du tout, personnellement.
Je ne vois pas ce que ça veut dire, quand vous dites « je n'y crois pas à la peinture d'histoire ».
C'est-à-dire que je ne crois pas à l'efficacité de la peinture pour dénoncer une réalité ou un propos. Et pour faire part des drames de notre vie, et surtout quand notre vie est au maximum dramatique. Donc je pense que les photos, le cinéma et les témoignages sont beaucoup plus forts pour nous faire revivre l'horreur de cette première guerre mondiale que n'importe quel tableau futile fait par d'une main de maître, on va dire ça comme ça. Pour faire un parallèle... Je crois que pour faire un parallèle sexuel, c'est-à-dire on peut faire des parallèles sexuels entre la guerre et la mort et le sexe, naturellement, il est peu probable, à partir du moment où la photo a existé, qu'on se manualise devant un tableau plutôt que devant une photo.
Ça me laisse songeur.
Ça revient en disant ça. Ce sont les métaphores sexuelles. Pour revenir à la comparaison.
C'est-à-dire que la photo a plus d'effet sur nous, a plus d'effet sur notre sensibilité, a plus d'effet sur que n'importe quel tableau. Donc, quand il essaye de dénoncer la guerre par le prisme de la peinture, et tel qu'il le fait là, avec une espèce de peinture... À part ce bas de la partie centrale, hein, là où il y a les viscères et où le tableau est un all-over absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de perspective, on ne sait absolument plus où on est, et là on est dans un autre problème de la peinture.
On aborde l'informe dans cette zone-là, c'est absolument extraordinaire.
Dans cette zone-là, on aborde la forme. Tout le reste, on aborde quelque chose qu'on connaît par cœur déjà à cette époque-là et qui ne nous fait plus d'effet, c'est-à-dire que je ne crois pas que ça fasse de l'effet.
Dites-moi, Maria Stavrinaki, il y a un petit désaccord, ou pas un désaccord, mais il y a une précision qu'amène en tout cas Vincent Corpet sur Nietzsche, c'est pas la volonté de la guerre, ça on est bien d'accord, ça c'est l'interprétation de sa sœur, si je puis dire. Hein. Mais quelle était l'importance pour les artistes, Franz Marc, lui, Zarathoustra, qu'est-ce qu'ils en connaissaient, qu'est-ce que ça voulait dire?
Il y a d'abord, donc il faut faire toujours le partage entre Nietzsche, qui déjà est un penseur qui est lui-même, il a d'abord connu plusieurs périodes, on ne peut pas traiter tous les écrits de Nietzsche de la même façon, et le nietzschéisme. Donc le nietzschéisme sont justement toutes ces interprétations de droite, de gauche, des anarchistes, de l'extrême droite, qui ont été faites en Allemagne, disons, depuis le début du XXe siècle jusqu'à la montée du nazisme. Pour parler justement de Dix, effectivement, je pense que les artistes ont pu s'identifier à cette figure suprême de Nietzsche, de l'affirmation de la créativité humaine. Je ne pense pas que Nietzsche soit la voie la plus fertile pour comprendre, en fait, Dix et sa façon de vivre la guerre.
Maria, je m'interroge parce que Dix récitait le Zarathoustra jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour lui. Oui. Et j'avais l'impression qu'il y avait cette volonté de se confronter à la violence pour la surmonter. Il y avait un aspect comme ça.
Donc vous vous référez plutôt au côté justement dionysiaque, c'est ça?
Oui,
de la pensée, voilà. Mais en effet, je pense que justement, c'est pour ça justement que je pense que quand on parle aussi de Dix, il faut penser aux différentes périodes et aux différentes significations qu'a pu revêtir la guerre, justement, dans la pensée de Dix, dans son œuvre, parce que il y a des Dix qui font l'éloge, en quelque sorte, de cette guerre, c'est-à-dire qu'il s'est quand même auto-représenté comme le dieu Mars.
Absolument.
C'était les années 1917-1918, c'est un peintre extrêmement éclectique, Dix. Et donc, à ce moment-là, il peint comme un futuristo-expressionniste, disons. Donc là, on peut en effet détecter ce côté dionysiaque, de cette simultanéité, cette interpénétration de tous les régimes, comme ça, de la réalité, de la personne de l'artiste, etc. Plus tard, ça change. Il y a un Dix Dada, il y a un Dix, justement, qui est l'un des représentants majeurs du retour réaliste.
De la nouvelle objectivité.
Chaque fois, la guerre a une autre signification. Et je pense que c'est important de prendre cela en compte aussi. Parce que, par exemple, la dénonciation de la guerre par Dix Dada est, à mon sens, extrêmement intéressante, alors que je n'aime pas du tout ce qu'il a fait, par exemple, dans le triptyque de la guerre. C'est-à-dire que je le trouve un triptyque qui est extrêmement problématique.
Alors, nous allons en reparler, mais je vous propose avant d'écouter à présent quelques écrits de l'époque de Dix qui montrent un peu la réception qu'on faisait de son œuvre. Vous, vous n'êtes pas très favorable, je vous entends, Maria. On va entendre un petit peu ce qui se disait, par exemple, le critique Paul Wechsteim en 1926, puis Julius Meyergraffe en 24. Les avis, vous allez l'entendre, sont bien tranchés.
Il est le Saxon devenu fou furieux, celui pour qui la douceur de vivre a cessé dans les tranchées, au milieu des vapeurs de sang, de boue et de gaz. Il appartient à cette nouvelle génération qui veut à toute force savoir, sans y mettre les formes, si vraiment les choses doivent être ainsi. Parler par métaphore n'a plus aucun sens. Ça aussi, ils l'ont appris depuis 1914. Car c'est avec elle qu'on les a trompés, sans scrupules ni vergogne. Il n'y a plus que les faits qui puissent encore convaincre et contribuer à améliorer la situation. Les faits dans toute leur nudité et toute leur brutalité. Des formes claires et précises. Un détail poussé jusqu'au plus petit élément, rendu avec un soin méticuleux, une exactitude mécanique, serait-on tenté de dire. Une technique conforme au travail moderne des machines de précision et dont la facture a quelque chose de la propreté et de l'élégance miroitante d'un roulement à billes, mais aussi de l'effectivité du photogramme. Paul Wechsteim, 1926. Cette tranchée n'est pas seulement mauvaise, elle est peinte d'une manière infâme, avec un plaisir pénétrant du détail. Le cerveau, le sang, les intestins peuvent être dépeints de telle sorte que l'eau vous vienne à la bouche. Le jeune Max Liebermann l'a prouvé avec des tableaux immortels. La deuxième anatomie de Rembrandt avec son ventre ouvert vous donnerait envie de l'embrasser. Ce Dix est, pardonnez-moi ce mot brutal, à vomir. Julius Meyergraefe, 1924, Deutsche Allgemeine Zeitung.
Alors Vincent Corpet, nous entendions Julius Meyergraefe disant que le tableau, la tranchée, était à vomir. Qu'en pensez-vous ? Quant à ce tableau, le triptyque de la guerre, est-il à vomir, lui aussi ?
C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je crois qu'aucun tableau n'est à vomir, ni à hurler de rire devant, ni à avoir une émotion de cet ordre-là, de nos émotions communes, en fait. Je pense que l'art se passe sur des émotions qui sont tout à fait ailleurs que cet endroit-là. Et c'est à ce titre-là que ce tableau est... est décalé dans le temps, parce qu'il se sert d'un vocabulaire, on pourrait dire, ancien face à une époque moderne et sur lequel on décrypte trop vite, trop facilement. On pourrait dire que c'est un tableau fait par un étudiant en première année des Beaux-Arts, en fait.
Qui peint assez bien.
Si on était
Maria,
méchant.
Qui peint assez bien.
Qui peint super bien.
Mais Maria, je m'excuse, mais il a préparé ce tableau pendant 4 ans. Il a fait des centaines de dessins pour y arriver. C'est son grand verre, puisque pour filer la métaphore Marcel Duchamp, non ?
Oui, si on veut, mais bon, je veux dire, les démarches entre les deux artistes sont tellement opposées. Je veux dire, Duchamp, c'est quand même, il incarne, il assume les désenchantements.
Je suis absolument d'accord.
Et là, on a quand même la volonté de ressusciter des expériences perdues, la peinture d'histoire, dont Géricault, quand même, avec le radeau de la Méduse, a signé la fin. Parce que justement, voilà, il y a des choses, il y a des médiums, il y a des façons d'expression qui sont quand même, voilà, qui périssent avec la transformation historique. Mais bon, ce que je voulais dire pour revenir à Meyergraefe, est-ce que c'est à vomir ? Non. C'est aussi, je viens ici parler un peu comme l'historienne du genre, puisque Meyergraefe, en fait, il faut lire ce débat qui est suscité par la tranchée dans la continuité du débat qui a été suscité encore par Meyergraefe en Allemagne, par Böcklin. Parce qu'il avait écrit un livre, je ne sais plus, c'était 1905, quelque chose comme ça, qui s'intitulait « Der Fall Böcklin », donc « Le cas Böcklin ». Et Meyergraefe, il a dit, enfin, ce qui caractérise l'art allemand, c'est que ça illustre toujours des idées. C'est un art qui manque justement de toute la de la vraie peinture, de toutes les qualités de la vraie peinture française. Je pense que justement Meyer Graffli reconnaît ce Dix, ce mal allemand, c'est-à-dire un peintre qui, comme il dit, ne vient pas peintre, mais illustré une fois de plus des concepts, des idées, etc., etc.
Vincent Corpet, vous voulez réagir?
Ah, j'adore ce qu'elle vient de dire. Parce que je crois qu'effectivement, il y a un gros problème de la peinture allemande et qu'il n'y a pas de peinture allemande. C'était qu'il y a essentiellement une illustration de poèmes, d'idées, de choses comme ça.
Bon, enfin, Georges Grosch, c'est un très grand peintre, par exemple.
C'est un très gros dessinateur, très bon, très gros dessinateur. D'ailleurs, qui est plus drôle, d'ailleurs, ne serait-ce que même dans sa mort, Georges Grosch.
Et alors, revenez à notre sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tableau ?
Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je pense que... il tente de faire, en fait, ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre. Ce qui est une notion qui n'existe pas théoriquement au XXe siècle, sauf chez... je ne sais pas qui.
Chez Picasso.
Picasso n'essaye pas de faire le chef-d'œuvre.
Quand il fait Guernica, c'est un chef-d'œuvre.
Guernica est un autre problème, parce que Guernica se transforme en chef-d'œuvre, mais pas du fait de Picasso, du fait de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un tableau est pris par l'histoire. Ce n'est pas un tableau d'histoire, c'est un tableau qui a été pris par l'histoire, parce qu'il devient le garant de la République, de la démocratie espagnole, et il revient en Espagne qu'à partir du moment où l'Espagne a le droit de le prendre. C'est-à-dire qu'on est dans un tableau moral, mais qui a une morale politique, qui n'est pas due à Picasso, qui est due à l'histoire. Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur l'histoire, parce que c'est très compliqué, les artistes et l'histoire. Les artistes et l'histoire, ou les hommes et l'histoire. Il n'y a rien de pire pour un homme que quand il rencontre l'histoire, en fait, je crois. On a la chance d'être d'une génération où on a 60 ans sans avoir rencontré l'histoire, ici, à
Vous
Paris.
Inquiétez pas, ça vient.
Ça arrive.
Ça vient.
Oui, mais c'est très intéressant que ça vienne, parce que ça vient. On sent que ça vient, on sent que peut-être ça vient, et on sent, et moi je vois ça chez pas mal d'artistes que je connais, on sent que quand cette histoire arrive, tout le monde n'est pas très loin d'avoir envie de se casser, de fuir, c'est-à-dire de ne pas vouloir la rencontrer, cette histoire, et de croire qu'elle va faire quelque chose. Or, on sait ce qu'elle fait, elle détruit les artistes.
Il y a aujourd'hui des artistes en Irak, en Palestine, et dans beaucoup d'autres endroits où il y a vraiment il y a de la réaction quand même, il y a du combat avec les œuvres, au fond. Est-ce que vous n'avez pas l'air de croire que Dix, même vous avez l'air de penser que le combat de Dix est vain, mais vous n'avez pas l'air de croire que c'était la volonté d'un combat?
Moi, je crois que c'est la volonté de son combat. Mm-hmm. Je crois qu'il est, c'est un échec de son combat. C'est autre chose. Que lui ait eu envie de le faire, oui. Pour moi, c'est un échec.
Alors, Maria, que représente ce tableau? Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, de quoi ça parle? Comment est-ce qu'il est construit? Qu'est-ce qui se passe dans ce tableau?
Je voudrais pas décrire le tableau, mais c'est vrai que moi, ce qui m'est quand même, ce que je retiens ici, c'est cette volonté de monumentaliser l'histoire. Et je trouve que le meilleur texte, en fait, qui a été écrit sur ce tableau, c'est le texte d'Ernest Calais, qui a été écrit en 1927, où il parle justement de l'ambivalence radicale de ce tableau. C'est-à-dire, quand on le regarde, ce qu'on sent, c'est la terreur de la guerre, mais aussi l'incroyable fascination des Dix vis-à-vis de la guerre. Et il dit, en fait, le rapport des Dix à la guerre, c'est celui qui est catholique avec le diable. Et je trouve ça extrêmement pertinent. Et je me permets aussi de dire que c'est une tradition qui trouve d'ailleurs, d'une certaine façon, ses représentants même aujourd'hui, parce que pour moi, par exemple, la peinture d'Anselm Kiefer est une sorte de résurgence, de réactualisation de ces syndromes, c'est-à-dire de ce double bind, en quelque sorte, entre la fascination et l'horreur vis-à-vis de quelque chose. La monumentalisation, justement, d'une expérience qui est une expérience, justement, en tout cas, dont cette monumentalité-là ne peut pas rendre compte.
Mais c'est peut-être une conjuration, tout simplement, un exorcisme.
Oui, ça s'appelle... Je ne sais pas, ça peut être aussi un exorcisme, mais enfin, je trouve que c'est...
Bon, c'est difficile la vie avec vous deux, parce que vous faites feu de tout bois, maintenant que vous, vous venez, Kiefer vient de se faire allumer, toute l'histoire de la peinture allemande est détruite en quelques mots. Vincent Corpet, je voudrais vous lire une phrase de Dix, et qui correspond à cette fascination dont parlait Maria Stavrinaki. Il dit... Parlant de son désir d'aller vivre les expériences à la guerre, il dit « Il fallait que je voie comment un type à côté de moi tombe soudain à la renverse et terminé. Il s'est pris une balle de plein fouet. Tout, il faut que je voie tout, tous les bas-fonds de la vie, je dois les expérimenter moi-même. » C'est fort quand même. Quand on dit qu'il faut faire des œuvres comme on vit, que ça doit être la vie même, il a été au bout de l'expérience de soi et de l'exploration de soi.
Non, sans aucun doute. Ce que je crois, c'est que je repartirai sur cette notion d'artiste tout à l'heure, quand je disais qu'un artiste, c'était quelqu'un qui était plutôt lâche, parce qu'en fait, il n'avait qu'une chose à défendre, c'était sa peau. Maintenant, il peut la mettre en danger, sa peau. Mais il sait qu'il n'a que ça comme chose à défendre. Et parallèlement à ça, et d'ailleurs, la phrase de Dix, vous avez passé un extrait de Dix où il dit, je sais plus, où il parle du passé, il croit qu'il rampe encore. Elle n'est pas très claire, d'ailleurs, cette fou. Mais j'ai l'impression qu'un artiste, c'est d'abord un humain, et l'humain a cette particularité, c'est de pas savoir ce qu'il est. Comment ils font les autres? La question de tout humain, c'est pour tout notre effort est d'essayer de passer inaperçu, d'être comme les autres. Et un artiste est dans ce jeu-là encore plus profondément que les autres, parce qu'il n'a rien d'autre à faire que ça. Il n'a pas de jeu à jouer. Il a juste à savoir comment font les autres. Donc là, dans ce cas de cette période, de cette mauvaise période, d'aller se confronter à la mort sur les champs de bataille, ça pouvait peut-être vouloir savoir comment ils font les autres, parce qu'ils y partaient quand même tous à la guerre à ce moment-là. C'est-à-dire que Dix ne pouvait pas rester tout seul aussi dans son petit coin, sauf que s'il avait été Marcel Duchamp et qu'il avait pris un bateau.
Maria Stavrinaki.
Bah oui, il y a eu beaucoup de gens qui justement ont voulu vivre ça. Et puis, il y en a eu aussi qui, comme l'a dit Benjamin dans un essai qu'on cite énormément aujourd'hui, sont aussi rentrés et retournés du front, silencieux, parce qu'ils ne pouvaient rien dire. Parce que c'était une expérience, justement, qui était tellement, non seulement opposée à ce qu'ils pensaient qu'ils allaient vivre, mais aussi une expérience qui avait brisé tout lien entre le présent et le passé. C'est-à-dire que ça donnait une expérience qui n'était pas transmissible. Parce que c'était des gens qui étaient élevés, dit Benjamin, d'une certaine façon. Et puis là-bas, ils avaient juste à subir les effets de la technique. Alors, donc, aussi, moi, je suis, comme vous l'avez dit, critique vis-à-vis de cette triptyque, c'est parce que justement, je ne vois pas la moindre trace de cette technique. Je veux dire, je vois des corps qui sont déchiquetés, qui sont fragmentés, qui sont voilà, mais la technique, elle est d'une certaine façon refoulée. Je ne vois que des corps qui renvoient à une crucifixion, oui, à un martyr.
C'est une parodie de la crucifixion sans Dieu.
Exactement. Hein, donc l'historicité de cette guerre, elle est d'une certaine façon refoulée, elle est d'une certaine façon, on peut appeler ça aussi sublimée, hein, à travers quelque chose d'autre, qui est justement cette éternité, cette grande peinture allemande, etc.
C'est-à-dire que la déclaration, c'est que l'éternité sans Dieu, ça n'est que l'art. Il n'y a que l'art qui nous offre une éternité. Mais il avait attaqué l'art avec beaucoup de façons, puisqu'en 1920, il était dadaïste, en 1925, il était l'une des figures de la nouvelle objectivité, qui était aussi une attaque très cynique contre, contre la prostitution, l'assassinat, la corruption de la République de Weimar. Et puis ensuite, il y a effectivement ce travail sur la guerre. Alors, je voudrais qu'on on écoute à présent un texte de Hartlaub, alors directeur de la Kunsthalle de Mannheim, qui proposa d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le terme de nouvelle objectivité, pour désigner cette nouvelle manière de peindre la réalité dans ses aspects les plus banals, hein, ou les plus durs. En 25, il organise une exposition qui regroupait des artistes, nous sommes là quelques années avant le tableau dont nous parlons, qui en Allemagne ont dépeint la société de l'entre-deux-guerres et apporté leur témoignage sur la situation politique et sociale. Voilà ce qu'il déclarait en 22.
L'une, L'aile droite, conservatrice jusqu'au classicisme, qui s'enracine dans l'intemporel et qui aspire à sanctifier, après tant de prétentions et de chaos, la santé, la plasticité du corporel dans un dessin pur d'après nature, peut-être même en exagérant l'aspect terrestre, les rondeurs. L'aile gauche, quant à elle, est violemment contemporaine, issue plutôt d'une négation de l'art que d'une véritable croyance en l'art. Elle cherche à mettre à jour le chaos, le vrai visage de notre époque. Ce qui est décisif, en l'occurrence, c'est que ces deux orientations n'ont en aucun cas rompu complètement avec ce que la volonté intellectuelle et spirituelle des générations antérieures avait conquis de plus précieux. L'élément enfantin, élémentaire, est resté en nous comme une nostalgie, parfois même comme un accomplissement possible. Les possibilités d'expression du psychisme qui avaient été trouvées ont été préservées. Avec leur plus grande discipline formelle, les nouvelles possibilités constructives, telles que les trouva par exemple le cubisme, restent autant dans nos mémoires que l'exploitation audacieuse, symbolique et émotionnelle de la couleur. Le nouveau naturalisme n'a rien à voir avec celui de Corinthe ou de Zelle, et le nouveau classicisme, si l'on peut l'appeler ainsi, veut se distinguer de Canova comme d'Adolf Hildebrandt. Même s'il y a beaucoup d'affectation et un goût souvent plus proche des arts appliqués chez ces nouveaux puristes, ces néoclassiques vaguement négroïdes, même si la fureur politique et le cynisme rétrécissent l'horizon de quelques autres et confèrent un caractère quelque peu figé et convulsif à leur opposition, peut-être ces deux courants réussiront-ils à se réunir demain ou après-demain et à donner naissance à un courant plus profond et plus large. Gustav Hartlaub, Retour à la nature, revue Kunstblatt, Berlin, 1922.
Vincent Corpet, qu'est-ce que ça veut dire alors, après les doutes que vous avez évoqués, et pour reprendre les mots de 1922 de ce directeur de Mannheim, croyance en l'art. Quand on dit « je crois en l'art », on croit en quoi ? Est-ce que ce n'est pas ça dont parle ce tableau sans Dieu ? C'est qu'il faut croire en l'art comme seule possibilité de rédemption. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Dans la mesure où on dit que l'art, c'est ce que font les artistes, je veux bien y croire. Mais en tant que tel, l'art, j'y crois pas.
Mais dans notre sujet,
je ne crois en l'art que si c'est fait par un artiste. Mais dans le cadre d'Autodic, je pense que justement, c'est ça qu'on essaye de... C'est le grand problème, entre autres, de la peinture allemande, c'est que ils ont l'art est éloigné d'eux. Ils lui rendent service. Ils sont au service de l'art. Ils n'ont pas compris que l'art c'était eux.
Mais c'est bizarre de parler de la peinture allemande comme d'un tout, quand même.
Parce que on l'a subi tous les jours à longueur de dans cette ville, à longueur d'expositions et de musées, et qu'ils nous l'envoient bien dans la figure en nous parlant d'un tout, en nous expliquant à longueur d'interviews qu'on n'existe pas. Donc de temps en temps, il faut leur rappeler qu'ils sont pas grand chose.
Vous êtes-tu que vous parlez de la peinture allemande ou bien de Madame Merkel?
De la peinture allemande. De la peinture allemande.
D'accord.
Si on part sur le fait que l'art, c'est ce que font les artistes, on peut commencer.
Moi, ce qui me touche, c'est que Dix, quand il fait ce tableau, il dit, au fond, voilà, regardez ce que votre civilisation a réussi, et peut-être c'est ça qui nous protège encore. Alors, je ne veux pas discuter de savoir si ça nous protège ou pas. J'ai bien compris que vous trouvez que rien ne protège le désastre, puisque le désastre revient quand même.
Il se sert de ficelles, bon, rouge, noir, pour peindre la guerre. C'est quand même il n'y a pas besoin d'avoir vécu la guerre pour dire si je peins la guerre, je la peins en rouge et noir. Ce qui est amusant, c'est que le tableau qui a finalement plus marqué le siècle, lui, n'a pas de rouge, il est juste en noir et blanc.
Alors vous savez que le fascisme, alors Maria, le fascisme montant, le nazisme montant, va faire un sort terrible à Dix, puisque des centaines de tableaux de Dix vont être détruits, c'est-à-dire qu'il sera vraiment repéré, malgré ce que vous dites de sa peinture, comme un ennemi des idées sclérosantes et pétrifiées qui apparaissent à ce moment-là. Oui. Donc, pourquoi a-t-il été ressenti
d'abord,
comme un
ennemi ?
D'abord,
je n'ai pas traité en aucun cas Dix de... proche du nazisme, etc.
Non, pas du tout, non, d'accord, non, bien entendu.
Donc,
ni moi.
Oui,
non, non, j'ai... mais j'ai pas dit que
mais
ni
vous savez, le nazisme, en fait, ça ne paraît pas très logique, et pourtant c'était bien ce qui s'est passé. Il a rejeté beaucoup de gens qui auraient été ravis de le servir. C'était le cas, par exemple, de Nolde.
Oui, c'est le seul.
C'était le cas de plein d'architectes qui ont fait beaucoup de projets.
Et de danseurs.
Des danseurs qui ont fait beaucoup de projets pour eux. Et le nazisme, parce que lui-même, il avait un projet culturel qui était très rigide, a exclu beaucoup de gens qui étaient susceptibles quand même de coexister ou de travailler même pour le nazisme.
Il y a eu un revirement à un moment donné, effectivement. La propagande a laissé penser que l'expressionnisme était
voilà,
la vraie expression du peuple allemand.
Voilà, à cause de Goebbels, etc. Mais très vite, tout cela, voilà, le partage a été fait. Et donc, tout ce qui rassemblait de loin comme ça aux avant-gardes, etc., était rejeté. Maintenant, je pense que justement, on peut aussi, comment dire, parler de l'ambivalence des artistes ou des œuvres d'art, hein, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'un artiste, il n'a pas, comment dire, il n'est pas, ce n'est pas obligatoire de trouver dans un artiste seulement une subversion, de trouver et la rédemption, etc. Je trouve que justement, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est de trouver l'ambivalence, la tension à laquelle sont soumis les artistes aussi, en tant que sujet historique. Et pour moi, ce tableau, même si je ne l'aime pas, il n'empêche, je trouve que c'est un tableau extrêmement intéressant parce que pour moi, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une certaine vision, d'une certaine attitude historique et que je peux comparer, par exemple, à ce qu'écrivait à la même époque un Ernest Jünger, pour lequel la guerre était représentée autrement, à travers la photographie, à travers une façon extrêmement distante, etc. Donc, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir cette volonté de Dix d'exprimer l'empathie, hein, d'exprimer mais justement l'expérience directe qu'il a eue de la guerre et de l'opposer à d'autres démarches de l'époque qui considéraient que soit la guerre, on ne peut pas transmettre cette expérience, soit que selon Jünger, que c'est la photographie distante, froide, objective, peut nous montrer ce que c'était la guerre et ce que signifie la guerre pour la modernité, etc., etc.
Jünger était très ambigu, effectivement, oui. Sa position, c'était même pas assez ambigu, si je puis dire.
Oui.
Dix n'était pas ambigu du tout, il était contre, il était menacé. Quand le tableau a été réalisé, il a été chassé de son université où il enseignait. C'était quelqu'un qui était entré en résistance, quand même.
Bah, résistance, plutôt en exil intérieur. Je ne sais pas, résistance,
bah, d'accord pour exil intérieur.
Je sais pas, parce que la résistance, quand même, présuppose quelque chose d'actif.
Mais en opposition, quand même. C'était une opposition ressentie et forte. Dites-moi, Vincent Corpet, vous qui critiquez le travail de Dix avec une violence démesurée et déraisonnable, vous venez de faire une exposition qui s'appelle « Fuck de Maestro »,« Fuck les maîtres ».«
Fuck maître ».«
Fuck maître ». Et vous avez une relation de amour-haine avec ceci, parce que vous prenez en charge toute l'histoire de la peinture en faisant cette exposition. Et là, il y a la volonté de prendre en charge toute l'histoire de la peinture, non ?
Je ne sais pas si c'est le cas de parler de moi.
Non, c'est pour que vous parliez de Dix à ce propos-là.
Ben, non, justement, je pense que là, il singe. Il singe Grunewald. Il singe... il singe.
Mais pour dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut pas seulement dire la guerre n'a aucun intérêt.
Non, il nous dit c'est pas beau, c'est triste. On part à la guerre, on n'en revient pas. Vous croyez que vous allez mourir en héros et vous serez juste de la chair à canon. Dans le sens, vous allez vous transformer en bout de chair. D'ailleurs, aujourd'hui, on continue à nous cacher des bouts de chair. On n'aime pas nous montrer de la chair. La mort
à
jamais.
Il y a des artistes qui le font. Thomas Hirschhorn montre des bouts de chair,
voilà,
par exemple.
Mais... Hein. Le monde ne veut pas nous le montrer, donc là, Dix nous rappelle ça.
Donc rien de stupéfiant. Par contre, que pensez-vous de la forme, un triptyque, qui n'a pas de destination, parce que je crois qu'il n'y avait pas de destination, et sans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Maria ?
Mais c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis le romantisme, l'art a pris la relève de la religion, c'est-à-dire que l'art, lui-même, il a prétendu justement à cette fonction que le christianisme ne pouvait plus remplir pour une série de raisons. Et donc, même si ici, c'est au moyen justement de la laideur, de la vie qui n'a absolument aucun sens, etc., la prétention, justement, la rédemption demeure.
Dites-moi, vous avez donc fait cette, vous avez émis vos réserves sur la, sur ce tableau que vous ne trouvez pas le plus passionnant dans la démarche de Dix. Dans la démarche de Dix, est-ce que, par exemple, l'autre série qui s'appelle La Guerre et qui est une série de dessins et de lithographies et de gravures extraordinaires, vous intéresse plus?
Oui, il m'intéresse plus, mais en fait, la série que je préfère, c'est la série Dada. C'est justement la série dans laquelle Dix ne fait pas abstraction de l'histoire. C'est la série qui témoigne de la reproductibilité, de la standardisation, qui est critique, qui a une conscience de classe, qui est complètement évacuée dans tous les autres tableaux qui voilà, sont une apologie, je ne sais pas, qui s'adresse plutôt à l'humanité, à l'espèce humaine. Je trouve donc que la série qui m'intéresse beaucoup plus, c'est celle de Dada. Je trouve que là, il a eu justement une expression extrêmement aiguë qui, par exemple, dans le cadre de la première foire internationale de Dada, avec le fameux assemblage de Gross, Hertfeld, etc., qui s'intitulait « Le petit bourgeois John Hertfeld pète le plomb », ou s'énerve, on peut traduire ça de deux manières. Et en fait, l'un des tableaux de Dix, il est situé juste en face de cet assemblage. Il y a, en fait, c'est un display, c'est une exposition extrêmement bien réfléchie, malgré son caractère chaotique. Et là, Dix, il a quelque chose à dire aussi bien sur la guerre que sur le statut de l'œuvre d'art, qui est extrêmement problématique. Tout cela est évacué après. Et retour à la grande peinture. Voilà, ça pour moi, ça veut dire aussi quelque chose, parce que justement, on parle beaucoup du triptyque, etc., mais qu'est-ce qu'il a fait avant Dix et pourquoi il a recouru au triptyque? Donc, c'est aussi pour ce que vous avez relevé, pour la rédemption, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas, je sais pas, il n'a pas supporté, en fait, la crise du médium pictural. Et d'une certaine façon, recourir au triptyque, c'est une façon d'affirmer encore plus que la peinture va vivre éternellement.
Donc, voilà. C'est un arrière-gardisme.
Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects chez lui qui relèvent de l'arrière-garde. Même si je n'aime pas du tout cette façon évolutionniste de penser, je trouve que l'avant-garde, c'est une notion extrêmement problématique. Mais enfin, je trouve qu'il y a...
C'est au moins nostalgique.
Vincent Corpet, c'est nostalgique, certainement. Oui.
Au moins nostalgique.
Et donc, vous préférez le Dix Dada, vous aussi, ou celui de la nouvelle, ou les grimaces de la nouvelle objectivité?
Non, mais moi, j'aime bien Dix en entier. Quand il est dans la nouvelle objectivité, ce que j'aime bien dans la nouvelle objectivité, c'est son côté pornographique. Donc, et que ça, c'est... Bon, mais c'est pas dans l'histoire de l'art, la pornographie, c'est à côté, mais il est parfait dans ce genre de jeu-là. Pour ce qui est de ses dessins, ils sont merveilleux. Et effectivement, la période Dada est la plus intéressante. Bon, mais d'un autre côté, comme je dis, Claire, c'est ce que font les artistes. Moi, j'aime bien Dix du début à la fin, même si je peux dire que ce tableau est un ratage. C'est pas grave.
J'ai
en avait raté qu'un, ce serait rien.
J'ai failli ne plus vous croire. Alors, écoutons enfin un extrait du roman Le Feu de Henri Barbus, l'écrivain et l'ami de Dix, dont il s'inspire d'ailleurs quand il réalise sa toile intitulée Les Flandres vers 1936.
C'était une pluie de feu qui s'abattait partout, mêlée à la pluie. De la nuque au talon en vibrait, mêlée profondément au vacarme surnaturel. La plus hideuse des morts descendait et sautait et plongeait tout autour de nous dans des flots de lumière. Son éclat soulevait et arrachait l'attention dans tous les sens. La chair s'apprêtait au monstrueux sacrifice. L'émotion qui nous annihilait était si forte qu'en ce moment seulement on s'est souvenu qu'on avait déjà parfois éprouvé cela, subi ce déversement de mitraille avec sa brûlure hurlante et sa puanteur. Ce n'est que pendant un bombardement qu'on se rappelle ceux qu'on a supportés déjà. Et sans arrêt, rampaient de nouveaux blessés, fuyant quand même, qui faisaient peur. Et au contact desquels on gémissait parce qu'on répétait « On ne sortira pas de là. Personne ne sortira de là. » Feu de Henri Barbus, 1916.
« Bang Bang, donc personne ne sortira de là. Vincent Corpet, vous qui regardez avec passion l'art et l'histoire de l'art, pour vous en nourrir et parfois pour la martyriser à votre tour avec vos techniques et vos moyens, est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation entre les dessins de la guerre d'Autodix et les désastres de la guerre de Goya?
Ou Jacques Callot.
Ou Jacques Callot, oui, je suis d'accord.
Jacques Callot, on oublie toujours. Non, je le répète, juste parce qu'on a une tendance à l'oublier complètement. Et que, en fait, il règle le problème, comme souvent, quand le premier qui s'y attaque règle le problème. C'est vraiment l'histoire de l'art et de l'histoire. Comment on s'en sort? Et effectivement, la gravure, le dessin semble beaucoup plus efficace. En tout cas, semble pour nous plus facile à regarder, plus facile à garder. On est plus pris par ça. Mais je pense qu'effectivement, l'art graphique, entre guillemets, là, le dessin, c'est vraiment le corps pensant traçant. Et que ça, on est toujours aussi bluffé par ça, que ça soit Chauvet, Lascaux ou dans un petit crobard d'un autre contemporain, en fait. Parce que là, c'est un humain qui travaille. Là, c'est une idée d'un humain qui voudrait être quelque chose qu'il n'est pas.
Vous ne trouvez pas curieux, Vincent, qu'un artiste qui a été dadaïste en 1920 fasse un tableau comme cela en 1933? On est quand même à l'envers de la grande ironie explosive dadaïste.
Oui, mais l'ironie, ça dure rarement longtemps, surtout quand on vieillit.
Ouais, Haussmann, Zara, ils se sont bien débrouillés jusqu'au
oui,
bout.
Oui, quelques-uns.
Et Schwitters, non, bien entendu. Ouais.
Vous avez raison, j'ai tort.
Maria?
Ouais, bah, rien à ajouter, je suis d'accord. Oui,
Et Goya?
Oui, c'est vrai que quand je regarde Goya, je suis au trémolo.
Il y a une relation avec les dessins quand même, non, de Dix?
Oui, je pense, mais à Frédéric, je ne veux pas parler de quelque chose auquel je n'ai pas déjà réfléchi et qui, je ne sais pas, sans doute vous avez raison.
Moi, Vincent Corpet.
Alors évidemment, on va reparler toujours d'une certaine façon de Dieu le Père avec Picasso, mais je pense que Picasso, entre les songes, mensonges de Franco, les petites gravures, Guernica, Le Charnier ou Massacre en Corée, pose bien le problème de l'échec. Parce qu'il fait des échecs, Picasso.
Massacre en Corée, on est assez près de l'échec, on est assez près de Goya pourtant, on est un peu dans le 13 des maillots.
On est assez bien démané.
C'est très intéressant.
On est assez bien démané. Oui. Et de toutes les versions de.
Et pourtant, il rate. Oui. Et là, il rate. Oui. Il rate son coup.
C'est un tableau qui est un tableau très étrange, verdâtre, qui fait allusion au massacre en Corée, effectivement. Ouais.
Non, mais je voulais juste dire, c'est que là, on est sur un seul artiste, Picasso, et avec les choses qui réussissent, les choses qui ratent, alors qu'il réussit quand même souvent. Oui. Mais quand il s'attaque à l'histoire comme ça, il y a vraiment il y a du bon et du mauvais. Mm-hmm. Et sachant que Guernica est hors sujet, parce que Guernica, c'est pas... Guernica a son histoire.
Non, mais attendez.
Oui, mais quand même, c'est le seul tableau qui a été photographié à travers toutes ces étapes par Dora Maar. Ça aussi, c'est beau, c'est la fabrication aussi, d'une certaine façon, dans cette œuvre. De ce point de vue-là, c'est-à-dire le fait que c'est la seule œuvre de Picasso dont c'était le cas.
Picasso observait avec passion les journaux, a repris le gris et blanc des journaux qui paraissaient, on connaît tous cette histoire. Mmh. Et il est vrai, pour aller dans votre sens, à regret, que Picasso a fait un chef-d'œuvre qui a eu un langage totalement nouveau, qui s'est exprimé au moment où il a fait Guernica, alors que Dix fait une œuvre sur le même sujet presque, mais pas du tout avec un langage nouveau.
Oui, sans doute, mais il est pas si... bon. Guernica est pas si nouveau que ça. C'est surtout
Arrêtez
c'est que
tout cassé.
Non, c'est surtout que Guernica est présenté par la République espagnole et que la République espagnole, au moment où le tableau est présenté, s'effondre et le tableau ne rentre pas en Espagne, ne va pas dans un musée espagnol. Il est rejeté par l'Espagne. Il va partir à New York. Enfin, il va avoir son histoire et que cette histoire va rencontrer l'histoire. Mais c'est l'histoire du tableau, c'est pas l'histoire de la peinture de Picasso. Je ne sais pas comment je m'exprime mal.
Non, vous exprimez très bien, mais je trouve que vous exagérez en disant qu'il n'y a pas l'invention d'un langage, je pense, et d'une couleur, et d'une structure, et d'une... Quand on voit tous les dessins qu'il a fait pour parvenir à l'expression des mains, il y a une symbolique très particulière. Je trouve que c'est une invention.
Tant mieux.
Chef d'œuvre, on est tous d'accord. Oui, tant mieux. Je voudrais vous faire réagir, Maria, à quelque chose. Dix raconte. C'est à propos de la tranchée. Il dit « Un jour, je me suis rendu à la salle d'anatomie, on croirait qu'il se prend pour Rembrandt, et j'ai annoncé « Je veux peindre des cadavres ». Il pourrait se prendre aussi pour Géricault, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. On me conduisit devant deux cadavres de femmes qu'on venait de disséquer et de recoudre à la hâte. Je me suis installé et me suis mis à peindre. Je suis revenu et j'ai demandé cette fois des viscères et une cervelle. Et on me donna une cervelle sur un plat et j'en fis une aquarelle. Donc, c'est à propos d'un cadavre de femme de 1922. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation fascinée à l'horreur qui court d'ailleurs dans toute l'histoire de l'art, mm-hmm. hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est ça, c'est une fascination pour l'horreur qui est aussi un peu la quintessence du réalisme. Hein, c'est-à-dire que le réalisme, il a parti lié en quelque sorte avec tout ce qui est caché, avec tout ce qui est considéré comme étant bas, comme étant justement marge, etc. Alors, il n'y a rien de plus justement beau, disons, méprisé, qui est ignoré, ou bien qui nous...
Mais pensez aux photographies des années 30, pensant à Bataille.
Oui. Oh là là, c'est tellement différent.
On est aussi oui. dans une expression, la viscère, oui. le sang, comme une expression du sacré.
Oui.
Un sacré laïque, certainement, oui. mais du sacré. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est très différent?
Je pense que c'est très différent, oui. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison de relever justement l'analogie, mais justement, c'est que l'usage qui en est fait par les deux est très différent. Parce que pour Bataille, il s'agit de montrer toujours l'avortement de la chose. C'est-à-dire que le sacré n'aboutit pas. Le sacré, il s'exprime à travers la négation. Et tel n'est pas le cas de Dix, qui aspire vraiment à une affirmation, affirmer que, voilà, que c'est l'horreur. Voilà. Et là, il me semble que c'est quand même une grande différence, même si, évidemment, Bataille, il était aussi déterminé par le catholicisme. À mon avis, il n'a jamais cessé d'être chrétien. Mais enfin, l'usage qu'il a fait de cette détermination est tout à fait différent.
Vincent Corpet.
Oui, je pense que le Bataille, quand il explique comment il regarde les photos du supplice des 100 morceaux, c'est qu'il se met dans un état oui. de position religieuse et tout à oui. coup, il fait rentrer dans son champ quelque chose qui va... C'est le boson de Higgs, en fait. Il fait se choquer des particules. Donc, et Bataille étant un penseur, il fait choquer des pensées. Dit que c'est vulgaire.
Quelle conclusion? Écoutez, Vincent Corpet, je suis consterné que vous ayez ainsi défait ce chef-d'œuvre d'Autodix, le triptyque de la guerre dont nous venons de parler. Merci, Maria, de nous avoir accompagné là-dessus. Vous ne l'avez pas vraiment sauvé ni tiré d'affaire, ce pauvre Dix?
Ah, ben écoutez, un historien ne doit jamais considérer que sa tâche est de tirer d'affaire ces objets.
Je serai donc le seul à aimer profondément ce tableau. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Et les regardeurs sont parfois cruels. C'est effectivement Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé, éviscéré, défait une œuvre du peintre allemand Autodix, Der Krieg ou La Guerre, célèbre triptyque réalisé entre 1929 et 1932 et aujourd'hui conservé à Dresde en Allemagne. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Sylvia Favre. Lecture des textes, Andrea Schiffer. À la technique, Jehan Richard Dufour. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de la merveilleuse Sandra Adam et Jean Deloisy.
Until you go, babe, go to come for me, babe.